Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
L'image est digne d'un scénario catastrophe. Et pourtant, elle s'est déroulée dans la stricte réalité du mois de mai 2026.
Effectivement.
Dans le Puy-de-Dôme, au sein de l'usine de biogaz SAS Synergie des Combrailles, les pompes industrielles s'emballent. Les digesteurs reçoivent des commandes erratiques et la température de la chaudière fluctue dangereusement.
Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une panne mécanique.
Exactement. C'est une manipulation physique opérée à distance. Le risque n'est plus la simple fuite de données, mais bien l'émission incontrôlée de méthane.
Une collision directe entre le numérique et le monde physique.
Le Flash Info de mai est présenté par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Les données reposent sur des discussions collectées et recoupées provenant de divers groupes d'activistes sur les canaux de Telegram. Voici notre analyse des investigations. Dans un contexte de tension géopolitique, cette synthèse passe en revue les campagnes activistes de mai 2026, leurs cibles et leurs méthodes opérationnelles.
Il faut d'abord établir un fait central. La France a fait l'objet d'un ciblage massif au cours de cette période.
Un ciblage dont l'origine, si l'on se fie aux données du renseignement de sources ouvertes, s'explique par la chronologie des décisions géopolitiques récentes.
C'est tout à fait cela. L'analyse OSINT, c'est-à-dire l'étude des revendications publiques, montre une causalité directe avec les déclarations gouvernementales sur la volonté de renforcer la défense antimissile de l'Ukraine.
Ce qui a servi de déclencheur primaire.
Oui. Et à cela s'ajoute la participation perçue de la France aux actions policières d'Europol. Ces deux éléments ont été la justification explicite de cette vague de frappe.
Ces déclarations s'inscrivent dans une escalade géopolitique plus large. D'ailleurs, sur l'aspect strictement policier, l'opération européenne Eastwood mérite une évaluation.
En effet.
Quel a été, selon les données, l'impact réel de cette opération sur le volume des attaques ?
L'impact a été, paradoxalement, inverse à l'objectif. L'opération Eastwood visait à démanteler l'infrastructure du groupe No Name 05716.
Un démantèlement qui a échoué.
Globalement, oui. L'infrastructure n'a pas été neutralisée de manière permanente. Les rapports d'investigation le confirment.
Comment les acteurs de la menace ont-ils réagi à cette tentative ? Y a-t-il eu une escalade ?
Une escalade immédiate. En représailles, les groupes ont drastiquement intensifié leurs frappes. L'objectif était de prouver l'inefficacité des actions policières européennes.
Avec des marqueurs de ralliement spécifiques, je suppose ?
Exactement. Une vague structurée autour de hashtags comme Fuck Eastwood et Time of Retribution. L'actualité sert désormais de déclencheur asymétrique.
C'est-à-dire qu'un événement public déclenche une frappe dans la foulée ?
Oui. Une annonce de livraison d'armes le matin, ou un événement comme l'Eurovision en Autriche, entraîne une attaque ciblée dans les heures qui suivent.
Pour mener ces opérations de représailles simultanées, on observe une évolution structurelle de ces groupes ?
Tout à fait.
Observons-nous des simples alliances de circonstances ou une véritable restructuration stratégique durable ?
Les éléments penchent clairement vers une restructuration durable. Nous assistons à la multiplication de pactes d'assistance mutuelle.
Des pactes annoncés officiellement sur Telegram ?
Oui, de véritables traités entre milices numériques. Par exemple, le groupe No Name, 05716, ne perd plus seul.
Il mène des frappes conjointes.
Avec Shadow Clause 404, une alliance dédiée au ciblage de la France. Et ils ont aussi officialisé un partenariat avec AlphaNet.
Une logique de mutualisation des ressources, en somme ?
Exactement. Et ce phénomène est global. L'entité Anonymous Switzerland a formé des coalitions stratégiques avec Infernalis et Blue Shadow.
Le paysage de la menace se consolide.
Oui. On note aussi l'alliance du Dark Storm Team avec Doata Black Hat, ou encore des opérations conjointes entre NullSec Philippines et NullSec Nigeria.
Ces coalitions déploient donc leurs forces contre l'infrastructure française, cible prioritaire de mai. En évaluant la criticité des cibles, s'agit-il de cibles purement symboliques ou d'infrastructures d'importance vitale ?
L'analyse démontre un ciblage systématique du secteur vital. Dans le secteur gouvernemental, le Dark Storm Team a paralysé les sites de municipalités comme Gordes, Cassis, Aigues-Mortes et Roussillon.
Et au niveau national ?
Des domaines comme amende.gouv.fr, cert.ssi.gouv.fr et sécuritéroutière.gouv.fr ont été touchés.
Le secteur de la finance a également été lourdement ciblé, il me semble.
En effet, la Banque de France, Lazare, le Crédit Agricole, la Massif, Groupama et la Fédération bancaire française ont subi des offensives.
Frapper ces institutions crée une perturbation majeure. Mais qu'en est-il du secteur de l'industrie et de la défense ? Le niveau de criticité y est supérieur.
Les attaquants ont visé des fleurons industriels. Renault Trucks, KNDS France, la SAGEM, le JICAT et les chantiers de l'Atlantique.
L'objectif étant de perturber la chaîne d'approvisionnement militaro-industriel.
C'est exact. Et dans le secteur de l'énergie, de multiples sous-domaines d'EDF ont été ciblés. Mais l'incident le plus critique reste l'intrusion dans l'usine de biogaz SAS Synergie des Combrailles.
L'incident mentionné en introduction, il implique une compromission de système SCADA. Pour la clarté du briefing, comment l'accès à ce type de système se traduit-il sur le plan opérationnel ?
Le SCADA, c'est le système de contrôle et d'acquisition de données. Si le réseau informatique est le système nerveux, le SCADA, ce sont les muscles.
L'interface qui permet d'actionner les machines physiques.
Voilà. Ouvrir une vanne, réguler une pression. Dans le Puy-de-Dôme, les attaquants ont rapporté un contrôle total sur les pompes, les malaxeurs, la chaudière.
Ils ont donc la capacité d'induire des dysfonctionnements mécaniques, réels et non plus seulement de bloquer un site web.
Absolument. Leurs revendications mentionnent la capacité technique de provoquer une acidification des installations et des émissions de méthane. Le risque industriel est majeur.
Ces tactiques sont simultanément appliquées au reste de l'Europe. Si nous évaluons la situation dans des pays comme l'Italie et l'Autriche, subissent-ils le même degré de pénétration de leur système SCADA ?
Les données confirment un niveau de pénétration identique. En Italie, le groupe Noname 05716 a compromis le bassin de contrôle des inondations de Montechia di Crosara.
Une infrastructure critique pour la sécurité civile locale.
Oui, ils ont obtenu le contrôle des vannes hydrauliques 7 et 8. Théoriquement, cela permettait de provoquer des inondations artificielles.
Un basculement flagrant vers le risque cinétique. Y a-t-il eu d'autres cibles industrielles en Italie ?
Les systèmes d'une centrale solaire ont été touchés, ainsi que le système d'emballage industriel de Technogroup Lab en Sicile.
Avec un contrôle sur la chaîne de production ?
Exactement. Ils ont modifié les paramètres des onduleurs et la vitesse des convoyeurs depuis un simple accès réseau.
Et concernant l'Autriche et le Royaume-Uni, le tableau est-il similaire ?
Tout à fait similaire. En Autriche, on observe un ciblage des aéroports, des ministères et des infrastructures liées à l'Eurovision.
Et sur le plan industriel ?
Des compromissions de systèmes de chauffage de la marque ETA Heiztechnik ont été revendiquées, permettant de manipuler les températures industrielles à distance.
En plein mois de mai ?
En effet. Au Royaume-Uni, l'offensive s'est concentrée sur le réseau ferroviaire national, le port de Felixstowe et les administrations locales de East Cambridgeshire.
Pour compromettre un éventail aussi large, allant de la mairie au bassin de rétention d'eau, les méthodes ont dû être standardisées. Quelle est l'évaluation technique factuelle de ces intrusions ?
Il faut d'abord écarter l'idée d'attaque ultra sophistiquée. L'accès initial repose massivement sur l'exploitation de négligences en matière de cybersécurité.
Des négligences basiques. Comment opère-t-il pour les blocages de sites, d'une part, et les prises de contrôle industriel, d'autre part ?
Pour le blocage, ils utilisent des attaques par déni de service, des DDoS. L'analyse montre une utilisation massive du réseau botnet DDoS IA Project,
ce qui leur permet de saturer les serveurs de dizaines de domaines gouvernementaux simultanément.
C'est exact. Concernant les systèmes industriels, les rapports d'incidents pointent vers l'exploitation d'interfaces VNC exposées.
Le VNC étant un système de contrôle de bureau à distance pour la maintenance.
Oui. Ces interfaces sont souvent exposées directement sur Internet, protégées par des mots de passe par défaut. C'est l'équivalent de laisser la clé d'une usine sous le paillasson.
Ce qui leur donne un accès direct aux automates physiques, il y a un autre vecteur très présent dans cette synthèse HSV, l'espionnage par vidéosurveillance ou CCTV.
Un vecteur massivement utilisé en effet.
Des infiltrations documentées dans un salon Jean-Louis David en France, des magasins Magenta en Autriche, des supermarchés en Italie ou un centre éducatif à Londres. L'usage constant de ces caméras indique une volonté qui dépasse le sabotage.
L'objectif est purement communicationnel et psychologique.
Quel est exactement le narratif idéologique utilisé dans leurs revendications au SINT pour justifier cela ?
L'inférence psychologique montre deux axes. Le premier est une rhétorique anti-écologiste et anti-européenne.
D'où le ciblage de l'usine de biogaz et des centrales solaires.
Exactement. Le but est de se moquer de la transition énergétique de l'Union européenne en exposant la vulnérabilité de ses infrastructures vertes.
Il y a d'ailleurs une phraséologie spécifique utilisée par ces groupes, notamment lors d'un piratage logistique en France.
Oui. Lors de l'intrusion dans un entrepôt, ils ont diffusé les images d'un stock de machines à laver. Ils ont décrit la scène comme, je cite, « les cercueils blancs de l'économie numérique européenne ».
Une rhétorique visant à décrédibiliser le modèle économique. Et le second axe idéologique ?
C'est une volonté stricte de démoralisation. La diffusion d'images de citoyens ordinaires sur des caméras privées sert d'arme asymétrique.
Des retraités en Italie, des clients chez le coiffeur en France.
Oui. Le message sous-jacent est clair. Démontrer que les gouvernements ne peuvent pas protéger la vie privée de leurs citoyens tout en finançant des guerres à l'étranger. C'est une tentative d'humiliation étatique.
Pour maintenir une vision complète et une neutralité analytique stricte, il faut aussi examiner les motivations émanant d'autres sphères géopolitiques, notamment les incidents observés au Moyen-Orient. Que révèlent les investigations techniques ?
L'analyse OSINT documente un ciblage intense de l'infrastructure d'Israël pour des motifs idéologiques distincts. Des groupes comme Dynet et Anonymous Switzerland sont impliqués.
Avec des capacités opérationnelles de quel niveau ?
Des capacités avancées. Les opérations incluent un vol massif de données, s'accompagnant d'une prise de contrôle totale des réseaux internes.
Les systèmes civils ont-ils été impactés au-delà de l'exfiltration de données ?
Oui, des perturbations du système d'alerte aux populations Tseva Adom ont été confirmées. De plus, des attaques de saturation ont ciblé l'infrastructure ICAST qui gère le réseau des radios.
Et sur le plan des infrastructures physiques ?
Une opération a revendiqué la prise de contrôle des systèmes domotiques d'un immeuble intelligent à Tel Aviv.
Les portes, l'éclairage, la climatisation ?
Exactement. Ce qui illustre une fois de plus cette porosité immédiate entre les réseaux informatiques et la sécurité physique civile.
L'activité cyber contemporaine, telle qu'observée en mai 2026, marque donc une transition définitive. Pour conclure cette synthèse factuelle, quelle est l'évaluation finale de cette menace ?
La conclusion est que l'activisme s'est militarisé. Il n'est plus question de simple vandalisme numérique de surface.
Les structures de commandement et les alliances le prouvent.
Tout à fait. L'exploitation systématique des faiblesses des objets connectés et des systèmes industriels crée désormais un risque physique et sociétal réel. La ligne entre le numérique et le monde physique est franchie.
L'interconnexion globale de nos infrastructures civiles implique donc une vulnérabilité systémique. La prochaine escalade majeure pourrait ne pas se mesurer par des exfiltrations de données abstraites, mais par la manipulation directe de l'environnement physique urbain.
C'est l'évolution logique de ces campagnes.
De la gestion de l'eau à la distribution de l'énergie, le périmètre de défense n'est plus seulement numérique, il est vital. Fin de ce briefing.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.